Dieu m'a libéré de la prison. Amen. Je suis heureux d'être avec vous. C'est toujours une joie, un plaisir, un privilège que de pouvoir venir en Belgique. Et je crois que ce n'est pas anodin si les jeunes, les moins jeunes sont réunis pour toute cette journée. C'est vraiment parce que Dieu est en train de travailler les cœurs. Dieu est en train de susciter une armée qui se lève pour la Belgique, une armée qui va enflammer la Belgique. Je le crois que le réveil est en route. Amen. Est-ce que vous, vous êtes réveillés? J'entends pas. Alors le pasteur Ruben m'a dit, ne déroge pas au protocole. Moi j'aime déroger au protocole. Est-ce que vous pouvez prendre la main de votre frère qui est à côté de vous? Je plaisante, le pasteur ne m'a pas dit ça. Et lui dire, tu es au bon endroit ce matin, tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Maintenant, vous le regardez fixement dans les yeux, vous lui faites un beau sourire, si vous n'avez pas de dents, c'est pas grave, on vous aime comme vous êtes, et vous lui dites, Dieu t'aime, Dieu t'aime, et il a voulu que tu sois là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je vous sens un peu tendu ce matin. On va vous détendre. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur avec vraiment de l'engouement ? Amen. Vous pouvez vous asseoir. N'oubliez jamais une chose. Si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Si nous pouvons encore entendre sa parole, le louer, l'adorer, nous lever pour l'acclamer, c'est par sa grâce. Si nous pouvons entrer dans son sanctuaire, lui apporter nos prières, nos actions de grâce, tout est par grâce. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Un thème, un vrai thème. Avant de développer sur les deux réunions ce thème, j'aimerais, vraiment j'ai le privilège, et ce n'est pas tous les jours que je peux être en compagnie de ma famille, mais il y a une personne qui est là, qui a été l'instrument que Dieu a utilisé pour changer ma vie, une personne qui compte énormément pour moi, que j'aime beaucoup, moi que j'aime tout court, puisque non seulement elle est mon épouse, mais aussi elle m'a donné 5 enfants. C'est Manu, pour ceux qui ont lu le livre, alors peut-être que tu peux te lever et venir dire bonjour, que les gens puissent te reconnaître. Elle a tenu à être là avec nous pendant cette journée et on a fait ça a été toute une organisation pour placer nos 5 enfants, mais Dieu a permis que nous soyons là et nous remercions le Seigneur.
Bonjour mes frères et sœurs. Je suis contente d'être là ce matin. Bon, j'ai pas la parole facile par rapport à mon mari. Après, on va dire que c'est les femmes qui parlent beaucoup. Mais je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie de votre accueil. Amen.
On ne dirait pas qu'elle a eu 5 enfants. Dieu est bon, c'est la parole de Dieu qui fait rajeunir ses enfants. Amen. Vous savez, quand j'étudie la Bible, je suis toujours stupéfait, ébahi, en voyant ces hommes que Dieu a utilisés. Quelque part, ça m'amène, moi, à certaines réflexions. Je me dis en moi-même, mais pourquoi Dieu m'a placé dans ce pays dans lequel je vis, dans ce siècle présent? Pourquoi je fais partie de son peuple? Pourquoi Dieu a fait des dons à son Église? Pourquoi nous sommes là ce matin? Dans quel but? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi Dieu nous a tellement élevés qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes la plus belle créature de Dieu et que Dieu est intéressé non seulement par ce que nous sommes, mais par notre devenir? Dieu attend quelque chose de nous. Pourquoi Dieu nous a enrôlés, revêtus d'une mission, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples? Quand je lis l'Ancien Testament et que j'examine le caractère, l'attitude, la volonté, la fidélité, l'énergie de tous ces hommes que Dieu a utilisés pour changer, affecter, réveiller un peuple, je me dis en moi-même, mais Seigneur, est-ce que j'ai la même étoffe? Et c'est vrai quelque part, je ne sais pas, jeûner pendant 40 jours, pleurer, gémir devant Dieu, vivre au milieu des murmures, des critiques, et quand même chercher la face de Dieu pour que Dieu réveille ce peuple. Bien sûr, je parle de Moïse. Je ne sais pas aller annoncer les oracles de l'Éternel. Je ne suis pas prêt à recevoir des pierres ou à être emprisonné pour l'Évangile, voire rejeté par sa famille. Et là, je parle de Jérémie. Pourtant, bien des hommes dans la Bible ont été envahis d'un fardeau, d'un tel poids sur leur âme, qui n'avait qu'un seul désir, que le nom de l'Éternel soit élevé, glorifié au travers du peuple d'Israël. Ils ont passé des nuits entières à prier, à intercéder. Ils sentaient le cœur de Dieu. Et lorsqu'on lit ces histoires, on se dit littéralement, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ressembler à ces hommes? Comment, Seigneur, je peux devenir un tel homme? Vous savez, Jésus-Christ a dit dans Jean 14 au verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. » Parce que je m'en vais au Père. Vous savez, nous vivons dans un siècle qui est profondément endurci, dans le déclin. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu prive cette génération-là d'hommes et de femmes de la même nature que ces héros de la foi qui ont changé l'histoire du peuple d'Israël, que Dieu a utilisé vraiment pour amener des victoires, réintroduire ses ordonnances, apporter un réveil. Je ne peux pas imaginer que Dieu prive cette génération présente de tels hommes. Ces héros de la foi, au départ, n'étaient pas tous destinés à être des héros. Lorsque nous examinons leur vie, c'était plutôt des héros. Gédéon, par exemple, se considérait comme le plus petit de la maison de son père, un homme qui était fait que pour battre du froment. Mais lorsque l'Éternel apparaît, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va, tu vas délivrer le peuple. Lorsque Moïse, qui pendant 40 ans pensait être quelqu'un dans ses palais d'Égypte, lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a passé 40 années dans le désert et Dieu l'a complètement dépouillé, décortiqué de ce qu'il était. Et à la fin de cette session, il n'était plus rien. Et les 40 dernières années, Dieu lui a montré qu'il était capable d'accomplir toute chose, d'accomplir l'impossible au travers d'une personne qui n'était rien. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Jacob, usurpateur, trompeur, un jour il rencontre Dieu, il lutte avec Dieu, et c'est ce jour-là qu'il devient un prince, un véritable héros avec Dieu. Ces hommes n'étaient pas tous destinés à être des héros. Il n'y a que lorsque ils ont rencontré Dieu qu'ils sont devenus des héros. Bien sûr, je pourrais vous parler de Yanis, pilleur de banque, un délinquant qui un jour a rencontré Dieu en prison et qui est devenu un serviteur de l'Éternel. Il y a plein d'exemples comme cela. Et je crois que nous devons nous inspirer de ce que Dieu est capable de faire au travers de la vie d'un homme qui s'approche de lui, qui se donne à lui. qui prend la décision de marcher avec l'Éternel. Pendant ces deux réunions, nous allons considérer brièvement, ce n'est pas une étude, mais simplement un message pragmatique que j'aimerais apporter au peuple de Dieu. Nous allons considérer l'exemple de Néhémie, parce que Néhémie est devenu un bâtisseur, parce qu'un jour, il a pris une décision. Il s'est levé et il a agi. Prions un instant. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions. Merci de nous avoir conduits dans ce lieu. Merci de permettre ce matin à ton peuple d'entendre ta parole merveilleuse, ta parole qui est capable de nous réveiller, de nous stimuler, d'ouvrir nos yeux sur ta volonté. Ô Père de gloire, nous voulons nous laisser faire ce matin. Que ton esprit puisse toucher nos cœurs, nous ébranler, nous affecter, renverser nos raisonnements. Nous voulons nous laisser faire par toi, parce que tu es le seul à savoir, à connaître ce qui est bon pour nous. Seigneur, nous voulons oublier tous nos soucis du moment. Nous voulons les mettre de côté pour fixer nos regards sur toi. Père de gloire, parle, tes enfants écoutent ce matin. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Prenons le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 2 à 4. Il nous est dit ceci. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Je crois que tout commence là pour Néhémie. Il apprend une nouvelle terrible. Il apprend que ses frères qui sont restés à Jérusalem vivent dans l'insécurité. Il faut dire que depuis 140 ans, eh bien, les murailles, l'élan de la construction s'était arrêté. Et Néhémie apprend que ses frères sont au comble du malheur et vivent dans l'insécurité. Vous savez, Néhémie, ce n'est pas un surhomme. Néhémie, c'est un homme qui va prendre une réelle résolution parce qu'il sent le cœur de Dieu qui pleure pour le peuple d'Israël qui est resté dans la capitale. Alors, il se dit, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas rester là où je suis, dans ma position, sans rien faire. Il nous est dit que lorsque Néhémie a appris cette nouvelle, il s'est mis dans le jeûne et la prière. Il a intercédé en faveur du peuple pour chercher la face de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? a-t-il dit au Père ? Il est submergé d'émotions. Et pendant 4 mois, il va chercher la face de Dieu. Et je crois que c'est un point intéressant. Prier et agir, et pas simplement prier et ne rien faire. Il aurait pu se dire en lui-même, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu en faveur du peuple d'Israël. Mais il s'est dit, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Je veux prier et je veux agir. Parce que Dieu attend quelque chose de moi. À l'époque, il était échanson du roi. Il avait une position honorable, ne manquait de rien. Mais à un moment donné, il va ouvrir son cœur au roi. Néhémie 2, verset 2 nous parle de cela. Et le roi va lui demander, mais pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu as le visage si mauvais? Et là, Néhémie lui dévoile son cœur, lui révèle pourquoi il est dans cet état. Il dit au roi, mes frères qui sont restés à Jérusalem sont au comble du malheur. Je veux aller vers cette ville, vers les sépulcres de mon père pour que je la rebâtisse. Et Néhémie a eu l'autorisation du roi pour repartir à Jérusalem avec une mission. Même si à ses yeux cela était impossible, il savait qu'il servait le Dieu de l'impossibilité. Et nous devons garder cela dans notre cœur. La tâche était grande. La tâche était immense. Mais la résolution qui animait Néhémie va le faire aller jusqu'au bout de cette décision. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Soyons réalistes. Dans quel siècle nous vivons aujourd'hui? Nous vivons dans un siècle incertain et difficile. Le péché apparaît de toutes ses formes, partout. Les gens sont brisés. Dans les églises, on pleure plus que l'on rit. Nous voyons notre jeunesse être complètement enrôlée par l'influence du monde. Notre jeunesse souffrir, se détruire, se faire du mal. Notre jeunesse perdre la voie divine au gré des appâts de ce monde. Nous voyons les parents, les adultes, les familles disloquées, brisées, divisées. Soyons réalistes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans nos foyers? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Les ruines. Soyons réalistes. Lorsqu'on sort et qu'on se balade dans les rues, qu'est-ce qu'on voit? Les ruines. Les gens sont en souffrance. Nous ne sommes plus à la Genèse, nous sommes à l'Apocalypse. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus le mot bonheur, joie, unité. Aujourd'hui, les familles ne croient plus au mariage, à la fidélité. Aujourd'hui, les enfants ne croient plus en l'avenir, ne croient plus en la société. Aujourd'hui, le monde cherche à être heureux en consommant tout un tas de choses qui ne fait que les plonger encore plus dans les ténèbres. Aujourd'hui, bien souvent, nous ramassons les chrétiens à la petite cuillère dans les églises, tellement ils souffrent, tellement il y a un fardeau sur eux. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous? Soyons réalistes, les ruines. Les églises sont vidées. Les gens n'ont plus l'engouement, le désir d'aller devant le trône de Dieu, d'appliquer ses ordonnances. Les gens courent dans ce monde pour essayer de trouver un soulagement à ce chagrin qui pèse au sein de leur âme. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Soyons réalistes, les ruines. Il y a 2 ans, je suis venu en Belgique. À cette époque, j'étais dans le ministère pastoral. Je vivais une vie normale. Et quand je suis venu en Belgique pour faire de l'évangélisation pendant 15 jours, je crois, et c'est ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'avais pas préparé à cela. Je suis descendu dans une vallée où j'ai vu des toxicomanes à Charleroi, seringues au bras, me dire « Je sais que je suis en train de me détruire à chaque fois que je m'injecte ce poison, mais cependant je ne peux pas m'en détacher. Il n'y a que ça qui m'apporte le bonheur. » J'ai pleuré en voyant ces filles derrière des vitrines. J'ai pleuré en voyant des quartiers de Liège complètement dévastés, la misère sociale. J'ai pleuré sur la Belgique, je suis rentré à la maison, j'ai pleuré devant Dieu, j'ai dit « Seigneur, je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux plus rester sans rien faire. » Je me suis aperçu que, malgré le fait que j'avais vécu toute ma vie dans des quartiers, j'ai côtoyé la misère, j'étais déconnecté de la société. Et lorsque Dieu m'a renvoyé dans cette vallée, c'était comme pour me dire, mais regarde ce qui se passe un peu. Regarde autour de toi, c'est les ruines. J'ai pleuré devant Dieu. Et je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. J'ai pris la décision la résolution avec mon épouse de faire quelque chose. Même si je ne pouvais pas changer le monde, je savais qu'un petit pas pourrait affecter mon entourage. Je savais qu'une action, Dieu pouvait s'en servir pour créer quelque chose. Alors j'ai agi. Alors j'ai pris cette décision de ne plus rester les bras ballants au milieu des ruines. J'ai senti le cœur de Dieu pleurer pour ses enfants. Dieu vous aime, mais Dieu aime aussi ceux qui souffrent dehors. Dieu aime les perdus, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime ceux qui souffrent au sein, au milieu de ces ruines. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous pouvons crier Alléluia, si nous pouvons dire oui, nous sommes la lumière de la terre, le sel de la terre, c'est pour une raison. C'est parce que nous voulons nous laisser enrôler par la mission, le mandat que Dieu nous a octroyé. Dans Ésaïe 51, au verset 3, il nous est dit, « Il a pitié de toutes ces ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre sera aride, sera un jardin de l'Éternel. » Il y a toujours de l'espoir. Vous pouvez être aujourd'hui dans les pleurs, dans le deuil, mais la restauration est possible. Il ne faut pas se pousser à la résignation. Rien n'est fini, rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré. Nous servons le Dieu de l'impossibilité. Néhémie connaissait son Dieu. Il savait que même au milieu de ses ruines, il devait garder espoir pour des jours meilleurs. Mais pourtant, cela ne l'a pas empêché de demander pardon, Seigneur. Pardon parce que nous avons péché, moi et le peuple, pendant ces jeûnes, ces prières multipliées. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il s'est identifié à ce peuple qui était dans le déclin. Il a dit pardon, Seigneur. Voilà les réactions que Dieu attend. Pardon, Seigneur. Pardon de ne pas avoir fait. Combien de fois le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous ne le faisons pas. Pardon de ne nous être pas engagés. Pardon, Seigneur, d'avoir baissé les bras. Pardon d'avoir loupé le coche. Pardon de ne pas avoir agi, de ne pas avoir aidé, de ne pas avoir témoigné, de ne pas avoir parlé à celui que tu as mis à côté de moi. Pardon, Seigneur, d'être resté assis sur ma chaise pendant des années sans rien faire. Pardon de ne pas m'être investi dans l'Église, de ne pas avoir été un soutien pour mon pasteur. Pardon, Seigneur, d'avoir cherché les mets succulents de ce monde plutôt que ta volonté dans ma vie. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir répondu à ton appel. Pardon, Seigneur. Pardon. Néhémie s'est identifié à ce peuple et au sein de ses ruines, il a gardé l'espoir. L'espoir pour des jours meilleurs. Deux Chroniques, 7, 13, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Si mon peuple sur qui est invoqué ma voix s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays, je l'exaucerai, j'exaucerai ses prières. Comprenez quelque chose. Nous aspirons au réveil, mais parfois nous sommes endormis. Or que le réveil commence par l'Église. Je dis nous aspirons au réveil, mais parfois nous sommes assoupis, les bras croisés dans notre Église. Et nous disons, Seigneur, réveille ton peuple. Réveille-toi d'abord, mon frère. Le réveil doit commencer par l'habitation de l'Éternel. Le réveil doit commencer par l'Église, par chacun d'entre nous. Et là, les jeunes, il n'est pas question de dire « j'attends que mes pères se réveillent ». Non, Dieu peut utiliser des enfants. Il a bien utilisé Samuel. Dieu peut t'utiliser pour commencer à réveiller une église, à réveiller ton entourage, à réveiller ton école. Dieu peut t'utiliser pour te distinguer là où il t'a placé. Je crois que lorsque les gens sont réveillés, lorsque l'église est réveillée, alors le réveil se produit. Le réveil doit commencer par nos églises. Néhémie avait une mission, il avait une vision, et il savait qu'il ne pouvait pas reconstruire les murailles de Jérusalem seul. Voilà pourquoi il a partagé son désir, sa vision. Il a appelé le peuple à ouvrir les yeux sur leur état. Il a montré que dans un tel état, ils ne pouvaient pas se protéger. Il les a fortifiés, les encouragés par son zèle, son engouement. Il leur a dit, allez, on y va, on va de l'avant. On ne peut pas rester sans rien faire, nous sommes le peuple de Dieu. Nous servons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de nos pères. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est important d'avoir une vision commune. C'est important de partager nos visions, nos désirs, que nous puissions les placer devant le trône de Dieu et marcher en direction de l'accomplissement de la vision. Chacun, nous devons avoir une vision sur notre vie, une vision professionnelle, une vision d'avenir, une vision sur l'Église, une vision sur notre pays. Sans vision, le peuple périt. Sans vision, le peuple périt. Quelle est ta vision ? Quelle est votre vision ? Toi qui es jeune, quelle est ta vision d'avenir au sein de ton Église ? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur ? Quel est ce feu ? Quelle est ta vision ? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que depuis, en tout cas, que je travaille avec vos églises, il y a une vision qui ressort, une vision qui m'encourage, une vision qui me motive pour venir apporter la parole de Dieu, une vision vers la jeunesse de la part de vos pasteurs, mais aussi une vision vers l'avenir. C'est pour ça que je suis là. Je crois que les pasteurs veulent montrer aux jeunes qu'ils sont sensibles, qu'il est temps maintenant de partager la vision, qu'il est temps de nous laisser enrôler d'un commun accord dans cette vision, qu'il est temps de poursuivre le combat, qu'il est temps de se battre, de combattre ensemble, qu'il est temps de marcher, de construire, de reconstruire ensemble. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de rentrer dans l'impossible. Et c'est ça la réalité. Soyons réalistes, soyez réalistes, jeunes peuple de Dieu. Regardez la main tendue de la part de vos pères. Regardez cette main tendue. Ils vous appellent parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre vision. Ils ont besoin de connaître ce qu'il y a dans votre cœur. Alors, vous devez partager cette vision qui brûle dans votre cœur. Allez voir vos pasteurs. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et dans cet élan, alors la construction va se mettre en place. Je veux vous apprendre quelque chose au risque de vous décevoir. Il n'y a pas d'église parfaite, puisqu'elle est constituée de gens imparfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Ce n'est pas la peine de courir à droite et à gauche pour trouver l'église parfaite. L'église parfaite n'existe pas. L'église sera parfaite simplement lorsqu'elle va rejoindre le Seigneur. Alors elle sera parfaite. Aujourd'hui, on doit faire les uns avec les autres. Néhémie n'était pas parfait, les gens avec qui il a travaillé n'étaient pas parfaits. Simplement, ils avaient un seul mobile, un seul but, un seul objectif, reconstruire les murailles. Jeunesse, vous n'êtes pas parfait. Mais vous devez enrôler un seul mobile, construire pour l'avenir, reconstruire pour l'avenir, rentrer dans la vision que Dieu a mise dans votre cœur. Et je crois que aujourd'hui, quelque chose se passe. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous révèle sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants s'humilient, cherchent sa face, prient en faveur du pays. La volonté de Dieu, c'est que Dieu apporte un réveil à travers de ce pays. Et le réveil sera manifesté au travers de vous. Alors que vous vous mettez en feu pour Dieu, je vous assure que les gens vont être embrasés par votre vie, embrasés par votre unité, embrasés par votre amour, embrasés par votre dévotion. Et vous allez faire renaître de l'espoir dans la vie des gens qui vivent dans ces ruines. C'est important de garder espoir des jours meilleurs, même au milieu des ruines. C'est important de véhiculer un message d'espoir à ceux qui se meurent. Vous savez, Dieu m'a fait cette grâce d'aller dans les prisons. Et en prison, il n'y a pas que des inconvertis, il y a aussi des chrétiens. Et quand je parle aux chrétiens, je leur dis souvent, vous savez, vous pouvez peut-être ressentir que votre vie est ruinée, que c'est terminé. À cause de votre condition de vie, vous souffrez, vous suffoquez. Vous n'avez plus le désir de vivre. Peut-être que la situation est tellement difficile que c'est un fardeau sur votre âme, au point que vous pensez que Dieu vous a oublié, que Dieu vous a châtié à jamais. Vous pouvez être enfermé au sein de ces murs, barricadé depuis des années, dans cette prison, mais je vous le dis, au milieu de ces ruines, il y a une chose que vous devez faire valoir, il y a une chose que les ruines, que le monde ne peut vous empêcher de faire, c'est celle d'espérer en Dieu pour des jours meilleurs. Parce que Dieu est le Dieu de la reconstruction. Parce que Dieu est celui qui est capable de restaurer des vies, de restaurer un peuple, de restaurer une nation. Avec Dieu, c'est possible. Et j'essaie de transmettre ma vision à ces gars qui sont en prison, qui vivent dans la même condition de vie que je vivais d'antan. J'essaye de faire en sorte que leurs yeux dépassent ces murs, que leur regard dépasse ces murs qui les emprisonnent, qui les enferment, qu'ils puissent regarder à celui avec qui tout est possible. Est-ce que vous me comprenez ? Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de regarder à lui, de ne plus regarder à toutes ces choses qui nous entourent, qui ne font que affecter notre âme. Le Seigneur nous demande d'espérer des jours meilleurs. Le Seigneur nous demande de nous engager, de nous laisser enrôler dans une vision commune afin d'avancer. Voilà le désir de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je l'ai dit, je le répète, nous ne sommes plus dans la jeunesse. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quand j'étais jeune, que j'aspirais au ministère, j'étais toujours dans la joie que de pouvoir partager la parole de Dieu. Bien des années après, il y a quelque chose sur mon âme qui pèse. Je ne suis jamais insensible quand je vois des gens qui sont détruits, qui sont dans les ténèbres, qui sont asservis, manipulés par l'ennemi. Je ne suis jamais dans la joie lorsque je vois des jeunes quitter leur église, déserter la maison de Dieu. Je ne suis jamais dans la joie lorsque je vois des églises se séparer, se diviser. Je pleure devant Dieu. Je me dis, Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que Nous avons fait les bons choix dans notre vie. Je crois que nous devons prendre en considération tout ce que le Seigneur essaie de nous dire ce matin. Afin de comprendre qu'il nous faut dépasser les limites de nos propres désirs, de notre propre volonté. Je crois qu'il est temps pour nous de nous offrir en sacrifice vivant au Seigneur. Cela sera un culte raisonnable, un parfum de bonne odeur. Je crois qu'il est temps de dépasser nos propres convictions, nos propres raisonnements, parce que ça nous fait mal. Je crois qu'il est temps pour nous de nous donner la main et d'avancer ensemble. Je crois qu'il est temps pour notre jeunesse d'emboîter le pas de leurs pères. Je crois qu'il est temps pour les pères d'attendre leurs enfants. Je crois qu'il est temps pour les pasteurs de prêter l'oreille à la jeunesse. Je crois qu'il est temps pour la jeunesse de prêter l'oreille à leurs pasteurs. Je crois qu'il est temps pour l'Église de se lever et de bâtir ensemble. Je crois qu'il est l'heure. Je crois qu'il est l'heure pour toi, mon frère. Je crois qu'il est temps pour toi, ma sœur. Je crois qu'il est temps pour nous de nous unir comme un seul homme et de dire comme le peuple de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Servons un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est redoutable. Et je t'assure qu'alors que tu agis dans une telle attitude, tu feras des exploits avec Dieu. Les exploits n'ont pas été réservés simplement à une élite. Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père, vous, vous êtes ici. Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu. Toi, tu es là et tu pourras faire les mêmes œuvres qu'il a faites parce qu'il t'a revêtu d'un mandat. Il veut que tu te lèves, il veut que tu bâtisses pour son royaume, il veut que tu travailles pour lui. Il veut que nous travaillions pour lui d'un commun accord. Levons-nous et bâtissons et alors nous pourrons expérimenter comme Néhémie ou comme tous ces hommes qui ont pris la résolution de s'engager coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, avec le Seigneur, nous pourrons expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Il est temps d'avancer. N'attends pas ton voisin, avance. Décide d'avancer. J'ai dit, il est temps d'avancer. Amen. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de sortir de notre léthargie spirituelle. Il est temps de nous distinguer au sein de ce monde parce que le monde a besoin de vous. Il est temps que l'Église brille, resplendisse. Il est temps que l'Église se distingue du monde. Et pour cela, Dieu a besoin de toi. A besoin de toi. J'aimerais simplement inviter le frère qui faisait la louange. Il reste 5 minutes. On va reprendre un chant doux. Le frère Jacques, viens. Et j'aimerais que nous puissions être à l'écoute de Dieu. Je crois que le désir de Dieu ce matin, c'était d'ouvrir nos yeux sur la réalité, sur notre condition de vie. Soyons réalistes, soyez réalistes. Peut-être que ce message t'a interpellé. Tu t'es senti touché. C'est comme si Dieu te parlait. Te disait, mon enfant, tu cherches ma volonté, mais voilà ma volonté. Tu voulais que je t'ouvre les yeux. Ma parole, elle éclaire les yeux, elle donne l'intelligence. Ce matin, tu as entendu cette parole. Aujourd'hui, comme Néhémie, tu as le choix de prendre une décision, de ne plus laisser faire les autres, de ne plus laisser faire, mais de te lever comme un seul homme et de dire « Moi, je veux être un acteur, je ne veux plus être un spectateur. » Et il n'y a pas d'âge pour être un acteur, il n'y a pas d'âge pour s'engager, il n'y a pas d'âge. Alors là où tu es, lève-toi simplement, que je puisse prier le Seigneur de t'équiper. Je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il honorera notre foi ce matin. Et en réalité, ce n'est pas une personne qui devrait se lever. C'est toute la salle qui devrait se lever comme un seul homme et dire « Oui, Seigneur, nous voulons nous engager avec toi. » C'est toute la salle qui devrait se sentir concernée. Mais ne le faites pas pour moi, faites-le par conviction. Et je crois que ce n'est pas simplement un homme qui devrait prier le Seigneur pour que sa volonté s'accomplisse dans sa vie ou dans la vie d'un peuple. Je crois que c'est l'Église tout entière qui devrait se tourner pendant un moment, lever les mains vers le Seigneur et parler-lui avec vos mots. Laissez votre cœur s'ouvrir à Dieu pendant cet instant. Je vous invite à le faire pendant que le frère nous conduit. Exprimez à Dieu ce qu'il y a au fond de votre cœur et demandez-lui de vous utiliser. Allez-y, faites-le avec vos mots. Ne soyez pas timide, ouvrez la bouche devant le Seigneur, priez. Peut-être qu'on peut lever les mains vers le Seigneur en signe d'engagement.
Je te résume. Jésus, j'irai où tu voudras, Seigneur.
Seigneur Jésus, ta soif de voir un peuple qui te réjouisse, qui t'honore, qui te plaît, ta soif coule en nous au point que nous te disons, Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de te servir, nous avons soif de te plaire. Merci d'avoir placé ce matin sur nos cœurs le chemin de la restauration, le chemin de la sanctification, le chemin où nous pouvons nous trouver ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est cela, Seigneur, que nous voulons vivre. Merci pour cette vision que tu as placée dans nos cœurs ce matin. Et devant toi, nous voulons, Seigneur, te dire, agis dans nos vies. Que ta volonté devienne la mienne, la nôtre. Seigneur, donne-nous ton cœur. Un cœur pour les perdus. Un cœur pour l'Église. Seigneur, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom. Amen.